Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Les chiffres sont toujours aussi accablants. Une Européenne sur cinq déclare avoir été victime de violences physiques ou sexuelles. Et le confinement a agi en la matière comme un révélateur avec 36% de plaintes en plus en France. Lutter contre les préjugés, prévenir les violences sexuelles et sexistes, c'est tout l'objet d'une initiative unique en France, initiée par un gendarme dans le nord du pays. En temps normal, sa caravane, sa carado, va à la rencontre des adolescents. Cette fois dans les lycées, il essaie de promouvoir sa méthode, inciter les adolescents à parler à d'autres adolescents de ces sujets. C'est le reportage de Lise Verbeck.
Habituellement, la petite fourgonnette bleue et rose du Carado va à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent. Dans un festival, sur la plage, dans des événements sportifs ou encore à la braderie de Lille. Mais avec le Covid et le confinement, il a fallu se réinventer. Le lieutenant-colonel Laurent Gladieux, à l'origine de l'initiative, a donc décidé de venir au plus près des adolescents, directement dans les lycées.
Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter un dispositif qui vous permette d'être les acteurs d'un message de prévention plutôt que les simples récepteurs.
Ce jour-là, il est au lycée Jacquard de Caudry, à une centaine de kilomètres au sud de Lille, pour expliquer la carado à une vingtaine de délégués de classe de seconde, très attentifs face aux gendarmes en tenue.
En France, un couple sur huit est concerné de près ou de loin aux violences intrafamiliales, donc vous savez ce que c'est. S'il y a quelque temps, on pouvait estimer que l'essentiel des violences intrafamiliales, c'était des coups, aujourd'hui, et encore très récemment, on a des violences intrafamiliales où monsieur décide d'enflammer madame. Elle dort tranquillement, il arrive avec de l'essence pour les foutre le feu. Vous voyez, donc on a non seulement une évolution dans le nombre des violences, mais aussi dans la nature de ces violences.
Le gendarme vit dans le nord de la France depuis 2 ans. Il commandait auparavant une mission en Guyane contre l'orpaillage illégal. Et ce qui l'a frappé à son arrivée, c'est l'importance des violences qui touchent de plus en plus de très jeunes couples.
Donc il me suis dit, il faut absolument cibler ces jeunes couples de façon à ce que ceux-ci puissent avoir des codes qui leur permettent de reconnaître les premiers signes de violence sexiste et sexuelle. C'est-à-dire que quand je t'humilie verbalement, quand je t'insulte, t'es moche, t'es conne, t'es grosse, t'es ceci, t'es incapable, etc. Ou alors, je veux que tu portes telle tenue, cette jupe, je la veux plus courte, je la veux plus longue, c'est pas nous qui choisissons, c'est moi. Et bien tout ça, c'est des premiers signes qui doivent avoir une résonance particulière pour les jeunes couples en disant non, attention, c'est un signal. Et si j'accepte, si je concède sur cette fois-ci, je concéderai à une nouvelle exigence, et ainsi de suite.
D'où la nécessité de prévenir, éduquer et sensibiliser le plus tôt possible. Depuis plusieurs semaines, Laurent Gladieux sillonne donc les lycées du département pour trouver des lycéens prêts à s'approprier ces messages et à jouer le rôle de relais.
Moi, je l'expose avec mots. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous en parliez avec vos mots. Parce que vous avez en parlé, vous, vis-à-vis de vos camarades, qui ont les mêmes mots, qui ont les mêmes codes. Moi, si je vous fais une leçon de choses là-dessus, on va dire, ah bah ouais, lui, il nous resserre son truc, il nous vend son truc. Non, moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est que vous soyez convaincus que ces messages sont fondamentaux, vous vous les appropriez et vous en parlez à vos contemporains, à vos parents, ceci, cela, avec vos mots et vos codes, et avec votre conviction. Si vous êtes convaincus que 1 égale 1, pas compliqué, hein, je veux dire, globalement, 1 égale 1, c'est simple. Une fille, un garçon, c'est tout point barre. Si vous admettez que 1 n'est pas égal à 1, ça va être compliqué. Il faut faire preuve de conviction.
Après 1h30 d'intervention, certains lycéens sont choqués par les chiffres donnés par le gendarme, notamment sur l'augmentation de 40% des interventions pour des violences conjugales pendant le premier confinement dans le département.
Je trouve qu'on n'en parle pas vraiment assez, on parle plus d'harcèlement. Et de ça, on en a vraiment, on n'a jamais parlé, donc voilà.
C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous en parler. En plus, c'est pratique parce qu'il en parle aux jeunes. Du coup, bah, on peut transmettre aux plus adultes et encore aux plus jeunes, tout ça. Du coup, c'était intéressant.
Le sexisme a aussi été abordé, un sujet encore très tabou, mais bien présent.
Comme au lycée, il y a beaucoup de filles qui osent s'habiller en robe ou jupe, ou etc. Et ben, ça prouve qu'elles sont courageuses, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de garçons pervers, entre guillemets, mais qui regardent les filles et qui leur font des moqueries et tout ça, donc c'est pas vraiment à faire.
Ils ont parfois conscience et parfois aussi il leur faut du temps pour prendre confiance. Il y a un phénomène qui est compliqué dans cette problématique, c'est le phénomène d'effet de groupe.
Mathieu Capdeville, CPE, conseiller principal d'éducation au lycée de Caudry.
On constate que très souvent, les situations sexistes ou les propos sexistes sont tenus en public, sous le regard de l'autre. Et quand on a face à soi, ce qui est mon cas dans mon bureau, l'élève en entretien individualisé, on voit qu'il s'est laissé dépasser par la tentation de briller négativement auprès d'un groupe. Voilà.
Le personnel du lycée porte l'action de la Carado, convaincu de l'importance d'un message transmis par les jeunes, pour les jeunes. Le gendarme compte lui y revenir dans quelques jours pour commencer à former des lycéens volontaires et mettre en place des actions ponctuelles comme un Facebook Live ou encore un ciné-débat. Pour le moment, une dizaine d'établissements scolaires du département du Nord se sont montrés intéressés pour installer une antenne de la Carado en leur sein.
Et pour lutter contre le viol, un pays a voulu montrer la voie législative. Il y a 2 ans, la Suède a estimé que tout acte sexuel qui n'était pas accepté librement et expressément était un viol. Il s'agit en fait de retourner la charge de la preuve, alors que jusqu'alors on demandait à la femme de prouver qu'elle avait été victime de violence. On demande cette fois à l'homme de prouver qu'il a bien reçu un consentement. Aujourd'hui, le bilan de cette loi est globalement positif, alors que beaucoup prévoyaient son échec. C'est le reportage à Stockholm de Victor Hull et Juliette Rangeval.
Un clip de l'association Stora Sister diffusé sur les réseaux sociaux pour rappeler ce qu'est une relation sexuelle librement consentie ou pas. 2500 personnes de tout âge, majoritairement des femmes, franchissent chaque année les portes de cette organisation à Stockholm. Salon de bois clair, ambiance feutrée, Stora Sister soutient les victimes de violences sexuelles et anime des formations dans les écoles notamment. L'accent est mis à chaque fois sur le consentement, une notion centrale depuis longtemps en Suède, comme l'explique Cecilia Bodker-Pedersen qui préside l'association.
Quand on parle de violence sexuelle, on associe 2 mots qui ne vont pas ensemble. Soit c'est du sexe, soit c'est de la violence. C'est du sexe s'il y a consentement, sinon c'est de la violence. La notion de consentement nous permet d'appréhender vraiment cette notion. À chaque fois, on le répète, que ce soit lors de formation ou lorsque nous apportons du soutien aux victimes. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de sexuel que tu ne voulais pas, c'est de la violence, pas du sexe.
Depuis 2018, cette notion de consentement est au cœur de la législation suédoise. Christina Voigt est l'une des procureurs les plus connues de Suède, presque une star depuis qu'elle a obtenu la condamnation pour viol de Jean-Claude Arnault, ce Français marié à une grande poétesse suédoise, membre de l'Académie des Nobel de littérature. À l'époque, la loi sur le consentement n'existait pas et elle, Christina Voigt, était plutôt sceptique.
Au début, j'avais vraiment du mal à voir dans quelle situation cette loi allait pouvoir s'appliquer. Ça me semblait un texte très bureaucratique, difficilement applicable dans la vie réelle.
2 ans plus tard, elle a changé d'avis.
Aujourd'hui, je pense que cette loi est totalement évidente, vraiment, parce qu'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui ne veut pas, c'est une offense terrible. C'est vraiment évident que le sexe est quelque chose de réciproque, où les deux personnes veulent, et c'est évident que c'est un viol si on a un rapport sexuel contre la volonté de quelqu'un.
Et les chiffres sont là. Le nombre de condamnations pour viol a augmenté de 75% dans le Royaume depuis l'instauration de cette loi, passant de 190 en 2017 à 333 en 2019, selon le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité, le BRE. Autre enseignement de ce rapport, 76 affaires qui, selon le parquet, n'auraient pas été poursuivies en vertu de la précédente loi, ont fait l'objet d'un jugement. Dans la moitié de ces cas, les accusés ont été condamnés. Stina Holmberg, du Conseil de la prévention des crimes, a travaillé sur le rapport.
Notre première conclusion, c'est que c'est une bonne loi, qui fonctionne bien. Nous sommes cependant plus réservés sur une douzaine de cas où cela va trop loin. Là, nous estimons que la frontière reste trop floue entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est un viol ou ce qui ne l'est pas, entre l'intention de violer ou pas.
Stina Holmberg fait référence à une nouvelle charge introduite par la loi, le viol par négligence, pour les cas où quelqu'un aurait dû être conscient du risque que l'autre personne ne participe pas volontairement à l'acte sexuel.
Je vais vous donner un exemple que nous citons dans nos recommandations. Le cas d'un homme qui serait particulièrement insistant et d'une femme qui lui dirait non à plusieurs reprises avant finalement de céder et de dire oui. Ce genre de rapport sexuel ne devrait pas être qualifié de viol. Pourtant, c'est la qualification retenue par certains tribunaux pour prononcer une condamnation, alors que selon nous, ce n'est pas si clair.
Lebreu estime qu'il faudra un peu de temps encore pour que la jurisprudence éclaircisse ce point, très critiqué également du côté de la police et des avocats de la défense.
Saviez-vous que 125 000 femmes en France, 500 000 en Europe, ont subi des mutilations sexuelles?
Cette voix, c'est celle d'une jeune sociologue, Saïda Barakat Daoud. Après avoir fait son doctorat sur l'excision et les techniques de réparation génitale, elle s'est aperçue d'une contradiction. Un savoir-faire médical existe pour réparer de manière chirurgicale le clitoris, mais les principales intéressées ne sont que rarement au courant. La sociologue a donc décidé de lancer une plateforme d'information collaborative européenne sur Internet. Baadon, c'est son nom, et c'est la première du genre. Léa Lisa Westerhoff.
Oui, l'initiative de la sociologue Saïda Barakat Daoud est née d'un constat pendant l'écriture de son doctorat, celui qu'il y a trop peu d'informations scientifiques disponibles pour les 500 000 femmes victimes de ces mutilations génitales en Europe sur les outils qui existent pour soigner cette blessure originelle.
Au cours de ma recherche, moi j'ai constaté que les jeunes femmes excisées en quête de soins étaient isolées. Elles manquaient d'informations vérifiées, accessibles et sous des formats multimédia notamment. Et elle manquait d'accès aussi à l'expertise collective des femmes excisées qui existent. Et ces femmes-là aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les gens qui font des sciences sociales et les soignants, on a pu constater qu'elles étaient massivement en demande de soins, mais qu'il n'y avait pas d'informations, de partage aussi, de savoirs de type médicaux ou des savoirs collectifs à destination du public concerné.
Or aujourd'hui, il y a par exemple en France 61 centres de santé publique et privés qui proposent une prise en charge à ces femmes remboursée par la Sécurité sociale. Et dans le reste de l'Europe, il y a une quinzaine de centres qui peuvent soigner les séquelles sexuelles de l'excision. Car depuis 2003 et l'innovation chirurgicale d'un urologue français, Pierre Foldès, il existe la possibilité de réparer cette altération, voire cette ablation du clitoris qui a lieu après une excision.
Il y a une mise en place de protocoles dans les hôpitaux et dans les cliniques où il y a une prise en charge chirurgicale, sexologique, psychotraumatique des séquelles sexuelles de l'excision. Ce qui n'existait pas auparavant. Ce qui existait auparavant, c'était une prise en charge urogénitale, obstétricale, des séquelles de l'excision, et ça s'adressait finalement à la femme qui était adulte et qui accouchait, mais pas la blessure originelle de l'excision qui agit finalement sur leur capacité à avoir une vie sexuelle épanouie.
Pour démocratiser cette information et donner à voir les techniques qui existent, Saïda Barakat Daoud a donc créé un site internet.
J'ai conçu à partir des résultats de ma thèse et des savoirs qui existent une plateforme web et mobile. Donc un laboratoire numérique qui va communiquer des informations scientifiques pour informer les femmes sur leur santé et leur sexualité. Pour cela, nous avons créé des outils pédagogiques sous des formes d'animation vidéo 3D sur les techniques d'altération qui existent, tout type d'excision, l'anatomie du clitoris, la chirurgie réparatrice et les parcours de soins. Et c'est une manière de donner en fait des outils pour visualiser, mieux comprendre ce que la lame a fait ou pas, ce que la chirurgie peut apporter ou pas, et quelle est la gamme de soins qui existe. Et en même temps, on va leur donner les moyens de se soigner, c'est-à-dire de mettre à leur disposition une cartographie des centres de santé en Europe et en Afrique.
Cet annuaire des centres de soins, Saïda Barakat Daoud espère bien le faire évoluer en fonction des informations que feront remonter les femmes victimes d'excision. Sur l'Afrique, par exemple, elle n'a à ce jour recensé que deux pays, le Sénégal et le Burkina Faso, qui proposent ces techniques chirurgicales réparatrices. Mais l'idée, en informant les femmes et en les mobilisant sur ce sujet, c'est aussi d'obtenir une meilleure prise en charge financière de ces soins.
Ce que nous souhaitons aussi, c'est que les jeunes femmes concernées, partout en Europe et aussi en Afrique, se mobilisent et s'impliquent sur cette affaire qui les concerne et sur la question de leur santé sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation du corps médical, il y a une organisation aussi de l'industrie de la cosmétique génitale autour de cette offre de soins, et il y a une absence totale des principales concernées. Elles n'ont pas de voix auprès des institutions médicales ou autres, et cette plateforme, c'est ce qu'elle permettra.
Cette plateforme sera mise en ligne en mars prochain. D'ici là, Saïd Barakat Daoud a lancé une campagne de financement participatif pour assurer le fonctionnement et l'animation de cette plateforme. Baadon, c'est son nom, et c'est un appel à l'action en langue afare, une langue parlée en Éthiopie, à Djibouti, d'où Saïda Barakat Daoud est originaire.
Ils ont un peu des noms d'espions. Au Royaume-Uni, on les appelle les SPADs, les Special Advisors, les conseillers de l'ombre. Figure emblématique du Brexit, le conseiller Dominic Cummings a finalement pris la porte alors que les négociations sont dans une impasse. On en apprend un peu plus sur leur travail et leur pouvoir grâce à un livre intitulé « The Secret Life of Special Advisors ». Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres et ce livre a bien sûr été écrit par un ancien SPAD, Peter Cardwell, qui a tenu plus longtemps que la moyenne dans la profession.
Ah oui, il a survécu 3 ans et demi, la longévité d'un SPAD est d'environ 2 ans, dit-il dans son livre, mais il faut dire qu'il a perdu 3 fois son travail, à chaque fois que son ou sa ministre perdait son poste, tout simplement. Ce n'est que la 4e fois que ce fut définitif, et cette fois-là, son ministre n'a pas été remercié, c'est lui qui a été viré par Dominic Cummings, le futur ex-special advisor en chef de Boris Johnson. On ne saura pas exactement pourquoi Peter Cardwell a été licencié, il ne le dit pas. Est-ce une question de compétence ou de personnalité ? L'important, c'est que le fait qu'il ne soit plus SPAD lui permet de parler de ce qu'est un SPAD. Ces misérables petites créatures, comme les a appelées un présentateur star d'une matinale britannique, Piers Morgan, lors d'un coup de gueule mémorable.
Et c'est l'un des points clés de ce livre. D'où viennent donc ces SPAD ?
Alors, Peter Cardwell était journaliste avant d'entrer en politique. Il a travaillé en Irlande du Nord, d'où il est originaire, mais aussi à Londres, à la BBC, ou pour ITV. Il en a eu assez de travailler la nuit pour la matinale, alors grâce au contact qu'il s'est fait en tant que journaliste, et puisque sans être membre du parti conservateur jusque-là, il se sentait proche de la politique des Tories, il a envoyé un message à la bonne personne. Cette personne l'a mise en contact avec un ministre et en quelques jours, le voilà conseiller spécial auprès du secrétaire d'État à l'Irlande du Nord. Venant du journalisme, il devient ce qu'on appelle un média SPAD, chargé donc de conseiller son ministre avant ses interviews ou dans ses relations avec les médias. Il y a aussi les policy SPADs. Ce sont eux qui s'occupent du fond, de la politique en somme. Mais Peter Cardwell explique que le rôle des SPADs est aussi divers que varié. Ça consiste à avoir toujours une barre chocolatée sur soi pour son ministre, au cas où il ait un petit coup de mou, ou bien encore à écrire un édito en imitant sa plume pour la presse écrite. Le SPAD a lui-même au moins un ou une secrétaire pour gérer les rendez-vous et le quotidien. Chaque ministre a possiblement plusieurs SPADs. Rien que Downing Street aujourd'hui en a environ 40 par exemple.
Mais les SPADs reste finalement une invention récente, Marie.
Oui, Peter Cardwell dit qu'il n'existait pas avant 1964. C'est l'opposition travailliste qui les a d'abord adoptés. Le Labour ressentait la nécessité d'avoir des conseillers politiques qui les aident à tenir tête au gouvernement, aidés par tous ses fonctionnaires. Quand les travaillistes entrent au gouvernement, ils conservent leurs conseillers spéciaux qu'ils avaient embauchés quand ils étaient donc dans l'opposition. Au début, ils étaient une poignée, et puis le nombre de SPADs augmente, surtout avec Tony Blair en 1997. On lui reprochera beaucoup cet entre-soi. Les SPADs font maintenant partie du paysage politique. Ils ne sont plus payés par les partis politiques comme au début, mais par l'État. Ils peuvent aussi, depuis 2015, donner des ordres aux fonctionnaires au nom de leurs ministres. Et beaucoup d'anciens SPADs sont devenus députés. Être SPAD, c'est une très bonne école, dit Peter Cardwell, même si lui jure qu'il ne compte pas se présenter.
Et finalement, ce livre permet une plongée au cœur du pouvoir ?
Oui, même si Peter Cardwell ne fait qu'évoquer Boris Johnson et Dominic Cummings, était-il un trop petit poisson pour avoir affaire à eux ou préfère-t-il ne pas se couper des ponts ? Peut-être les deux, car il fait un portrait de ses collègues et de la vie politique comme dure et exigeante, mais finalement, la plupart sont des personnes honnêtes et sympathiques, dit-il, et l'humour aurait sa place au quotidien. Lui-même a dû noter certains des bons mots qu'il a sortis à ses ministres, mais disons juste qu'ils ne survivent pas la traduction de l'anglais au français. Les journalistes politiques qui ont lu son livre ne sont pas vraiment impressionnés, mais pour les lecteurs qui ne sont pas familiers des arcanes du pouvoir, ça reste une bonne introduction à lire avec un esprit critique.
Merci beaucoup Marie Billon, à Londres, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.